Ici Jean-Dominique Leduc
et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025.
Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Damien Canto, bonjour.
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 Alors Damien, tu pilotes le blog journalistique Comic Strip. Mm-hmm. Donc un site assez foisonnant, il y a section dossiers, reportages, critiques, c'est vraiment un site complet. Donc évidemment, j'imagine que Angoulême, c'est la grand-messe incontournable pour le journaliste que tu es.
Alors oui, c'est un moment extrêmement important dans l'année pour moi, mais pour le site aussi, pour les auteurs, pour les éditeurs, même pour toutes les personnes qui peuvent être là, parce que c'est quand même le deuxième festival le plus important au monde, et en Europe notamment aussi. C'est le premier festival
Okay. le plus important. Et dans le monde, le premier, à ton avis?
C'est à San Diego, si j'ai bien compris.
Le Comic-Con, oui.
Oui, c'est ça.
Es-tu déjà allé au Comic-Con?
Non, jamais, mais j'aimerais bien y aller. On en a parlé ouais. Il y a moins d'un an.
Alors, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Marc, mais une des particularités en Amérique, c'est que le Comic-Con, il y est de moins en moins question, à proprement parler, de bandes dessinées et de comics. Okay. Alors, c'est beaucoup plus le cinéma, mm-hmm. les jeux vidéo.
Les séries.
Les produits dérivés.
Les produits dérivés, les cosplays aussi, les gens qui se costument. Et donc, d'année en année, l'offre diminue au D'accord. niveau vraiment des lectrices et des lecteurs. Alors qu'ici, à Angoulême, ben, on sent que le médium de la bande dessinée est vraiment encore au cœur de l'événement.
Oui, parce que ça, c'est la 52e oui. édition. Ouais. Et c'est un moment où la bande dessinée en francophone, c'est un tout petit milieu finalement. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, même s'il y a beaucoup, il y a une production très importante de livres. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui parlent de bande dessinée en France, okay. qui sont aussi salariés. Qui ne font que ça. Mmh. Souvent, ce sont des journalistes qui vont être accolés à une rédaction, mais qui vont faire de la culture en général, mais pas que de la bande ouais. dessinée. Alors que nous, par exemple, sur Comic Strip, on ne parle que de bande dessinée. Donc c'est un moment important parce que c'est un moment où, en 4 jours, on voit le plus de monde de la chaîne du livre de la bande dessinée au même endroit. Donc pour nous, c'est super important dans ce sens où on va voir tous les auteurs, mais aussi des éditeurs ou des attachés de presse ou même des lecteurs qu'on connaît, ou même des journalistes, parce que finalement, des journalistes de bande dessinée, on n'est pas beaucoup, et c'est un moment où on va tous se voir, entre guillemets. Au-delà d'aller voir des expos ou de faire des interviews, ne serait-ce que de se rencontrer pour parler, même pour boire un coup, tu vois. C'est vraiment ouais. hyper important dans ce sens-là. Ça soude.
Alors, justement, tu évoquais l'écosystème de la couverture médiatique de la presse. Alors, dans l'écosystème ici, en Europe, moi, je sens que la blogosphère est essentielle, est devenue oui, essentielle.
Exactement.
Évidemment, elle n'est pas imperméable à certains scandales, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent le web et j'en ai visité beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts également. Bon, des fois, c'est démocratique, c'est la beauté du web. En même temps, il y a des gens qui sont là, qui n'ont aucune idée vraiment, véritablement, de comment mettre à l'avant-plan du contenu, comment faire de la médiation, ce qui n'est vraiment pas votre cas. Vous êtes essentiel parce que c'est vrai que les grands canons comme le Nouvel Obs ou oui. Libération, oui. Ils ont des journalistes, mais la manière de couvrir, je trouve, elle est vraiment très, très différente. Vous avez, c'est vraiment deux mondes, c'est très, oui. très singulier.
Tu as raison, parce que nous, on parle de la bande dessinée tous les jours, alors que des grands médias, on en parlait peut-être une fois par semaine. Nous, on en parle vraiment tous les jours et dans tous les styles et dans tous les genres différents. Par exemple, sur Comic Strip, on a à peu près 45 000 visiteurs uniques par mois. Mais il y a,
c'est déjà énorme.
Mais il y a d'autres sites qui font beaucoup plus. Oui. BDGES, c'est 900 000 visiteurs uniques par mois. Alors BDGES, c'est un peu particulier parce qu'ils ont aussi des forums qui leur font venir des gens. Mais en termes de poids de lecteurs, finalement, les blogs ou les sites, mais hyper puissants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous lisent. pas spécialement sur un article, mais dans l'ensemble, tu vois, c'est dans ce sens-là. Et c'est parce qu'on a un lien très fort dans la durée, dans le temps, dans le tempo. On en parle tous les jours. Des chroniques d'albums, des dossiers, on peut faire de la vidéo. Enfin, il y a beaucoup de blogs qui font des choses vraiment très différentes pour parler de la bande dessinée, sans parler de Twitch ou des choses comme ça. Vraiment, si on se concentre sur des gens qui approfondissent vraiment ce que va dire l'auteur ou l'autrice dans ses bandes dessinées. Là, nous, on a le temps. Et en plus, on n'est pas limité dans la place, puisqu'on est un blog, on n'est pas limité, on n'a pas un...
Vous avez le luxe de l'espace.
Exactement. Ouais, c'est... on peut rajouter des vidéos, on peut rajouter de la musique, on peut rajouter des dessins, des auteurs, des recherches. Donc, ouais, je pense qu'aussi, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je pense qu'on est essentiel et tout le monde ne le comprend pas. Tout le monde ne comprend pas ça.
Alors, ben justement, alors qui ne comprend pas? J'imagine que les différents intervenants du milieu, comme les structures éditoriales, comme les événements, eux, ils l'ont compris.
Oui, bien sûr, ben, heureusement. Souvent, c'est important. Nous, on peut être aussi important dans les structures, on va dire, indépendantes, des petites structures. Mm-hmm. Même si, parce que, comme ils n'ont pas beaucoup de presse, mais que nous, on aime bien ce style de récit, et ben, pour eux, on est très important parce que finalement, des fois, ils n'arrivent pas à toucher les grands médias. Et nous, on est là aussi pour ça. Dans l'ensemble, quand même, on peut dire que les attachés de presse ou les maisons d'édition comprennent bien que les sites ont de l'importance, mais quoi qu'il arrive, pour eux, c'est beaucoup plus valorisant d'avoir un papier, même qui sera lu par très peu de monde dans certains journaux. Ouais. Télérama ou le Nouvel Obs, ça fait plaisir à l'auteur qui dit « Maman, regarde, j'ai un truc ». C'est classe, mais finalement, faut pas oublier que nous, on est là tout le temps. Et que voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je ne critique pas ce que Télérama, pas du tout, mais je dis que ce n'est pas la même vision, ce n'est pas le même tempo surtout, et ce n'est pas la même façon de parler des albums. Nous, on peut se permettre, si on a envie, de ne pas parler du dernier Astérix, parce que c'est inintéressant. Qu'on dise que c'est bon ou pas...
Mais ça se vend.
Oui, on s'en fout, bah on s'en fout de nous, ils n'ont pas besoin de nous. En revanche, dans le thème, dans le moment où Astérix, dans les 15 jours, ça va beaucoup se vendre, nous, on va parler d'albums qui nous plaisent beaucoup, mais qui sont dans des petites structures ou des choses, même dans des grandes structures, nous, on a cette chance-là. On a beaucoup plus de souplesse.
Alors que, par exemple, sur les chaînes télévisées, il m'apparaît très, très clair ici en Europe, c'est le cas au Québec. Donc, lorsqu'il y a un nouvel Astérix aux 2 ans,
bien sûr.
C'est l'éclipse médiatique. Là.
Bien sûr. Et si tu veux, ça pourrait être simple pour nous, pour en parler, ou même... dévoiler la couverture, ça ferait venir énormément de monde parce que c'est ce que les gens du grand public, puisque je te rappelle que la bande dessinée est un art populaire, donc c'est ce qu'ils attendent. Mais est-ce que finalement pour nous c'est intéressant que les gens viennent juste voir la couve? Non. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est de parler d'un album et de le défendre et d'expliquer ce qui nous a plu dans cet album. Donc, et puis quand on fait une interview, qui est un moment très particulier avec un auteur, on lui laisse la possibilité d'expliquer aux gens les coulisses de l'album, comment il a créé, la façon dont il va réfléchir à tout ce qui est le cheminement intellectuel qu'il va faire. Ça, c'est plus intéressant et c'est ce qu'attendent surtout les lecteurs. Et nous, on a cette possibilité-là de pouvoir en faire souvent.
C'est ça, c'est qu'il y a... Je sens en côtoyant le site qu'il y a vraiment un déploiement.
Oui.
Et que, les médias traditionnels, c'est un enjeu d'espace ou
bien
c'est
sûr.
Un enjeu d'espace temporel ou d'espace physique au niveau du nombre de caractères. Et c'est drôle parce que Marc et moi, sans les nommer, soupions l'autre soir et la table à côté, c'était une belle structure éditoriale
bien
européenne,
sûr.
Mais qui n'est pas dans les consortiums ou les bon, alors, une structure indépendante, et qui nous disait qu'au final, avoir un papier, comme tu le disais, dans Libé ou dans le Nouvel Obs, c'est très chouette.
Bien sûr.
Mais au niveau de l'incidence quant aux chiffres de vente,
c'est walou.
C'est négligeable.
Ouais, c'est ça.
Et c'est complètement fou. Alors que chez nous, et bon, moi, ça fait 15 ans que j'écris pour un quotidien, le Journal de Montréal, pour ne pas le nommer. Et il y a le journal Le Devoir également.
Oui, ça,
Le Devoir a une grande incidence.
Oui, OK.
Parce que c'est un journal qui s'adresse à un lectorat beaucoup plus intellectuel que le Journal de Montréal pour lequel j'écris.
Mm-hmm.
Ce qui me plaît bien, moi, d'écrire le Journal de Montréal. Parce que tu le disais à juste titre, la bande dessinée, c'est un art populaire.
Oui, il faut pas
et
l'oublier.
On le perd de vue,
exactement,
ça.
Tu as tout à fait raison.
Mais il y a encore une incidence. Et un bon article dans Le Devoir influe sur les ventes. Oui. D'accord. Et on m'a confirmé que pour le Journal de Montréal aussi, après, c'est des questions de territorial, où se situe le lectorat, tout ça. Alors que les blogs, et j'en ai fait longtemps du blog, c'est moins clair. Je sens ici vraiment...
Dire par rapport à la prescription, le fait d'acheter après?
Oui, voilà. Ah, okay, dans alors qu'ici, moi, je sens très bien que vous êtes établi, que vous êtes, vous faites partie de l'écosystème. Ouais.
Et ça m'est déjà arrivé dans des maisons d'édition un peu plus petites. Je peux pas demander à une maison d'édition, une grosse maison d'édition, parce qu'ils n'ont pas ces chiffres-là. Quand j'écris un article, si est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur ce que j'ai fait, il y a déjà des personnes qui ont dit oui, ben, avec ton article, il y a eu tant de personnes qui sont venues sur notre site et tant de personnes qui ont acheté. Et ouais, pareil, tu vois, moi je fais souvent des modérations de rencontres, donc je parle avec le public, avec un auteur. Et ben, par exemple, j'en ai fait un à Saint-Malo, il n'y a pas longtemps, et bien l'amphi était plein, il y avait 100 personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui avait lu l'album, les autres venaient pour la thématique. Et bien, dans le moment où on a fait la rencontre, le centre le dimanche, ils avaient vendu presque 50 albums avec la rencontre, mais c'est parce qu'on parle de l'album différemment, là, du coup. Voilà, donc il y a aussi tout ce côté-là où on a la possibilité de faire des choses, de parler, par exemple, on fait de la radio souvent.
Ouais.
Alors, un peu partout, un peu éclaté. Il y en a qui ont leur propre émission. Et là, à Angoulême, on en fait ensemble. Et bien, la radio, ça fonctionne bien aussi. Alors que la bande dessinée, c'est un art graphique, et bien, ça fonctionne super bien, la radio. Et là, étonnamment, la radio a beaucoup d'incidence, je dirais, en termes de... sur les attachés de presse et les auteurs. Ils aiment beaucoup ce média-là.
Parce que c'est un médium d'accompagnement.
Exactement.
Le fait de ne pas avoir de rapport à l'image nous incite vraiment à focusser sur le contenu.
Voilà, exactement.
Et que si on réussit à l'audio à vendre un livre, c'est qu'on a bien fait son travail.
C'est-à-dire que tu as tout compris.
Oui, voilà, exactement.
Et moi, ça m'arrive de temps en temps, et là aussi, les auteurs et même les éditeurs m'ont dit, bah, tu sais, là, on a vu, y a des gens qui sont venus acheter. Je ne dis pas que je suis prescripteur tous les jours et que je fais vendre 10 000 bouquins, c'est pas ce que j'ai dit, attention. Mais c'est parce que aussi, on a. Le gros avantage, c'est que moi aussi, ça fait une quinzaine d'années que j'écris sur la bande dessinée. Et ça fait que 10 ans que Comic Strip existe, mais j'ai un rapport de confiance très important avec le monde de la bande dessinée en général. J'ai beaucoup de contacts avec les auteurs, avec les éditeurs, avec les attachés de presse. Et c'est ce lien-là qui est important. C'est le lien de confiance que tu... Il ne faut pas qu'il se dégrade.
Oh non, il faut l'entretenir. Hein.
Et moi, je trouve ça, tu vois... Hier, j'ai rien fait, mais j'ai passé mon temps à aller sur les stands parce que c'est hyper important pour moi de discuter avec les gens, d'aller leur dire bonjour. Et ça, je pense que les grands médias ne peuvent pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Alors que moi, ce fil-là, je le fais. J'adore mettre les gens en lien à Poitiers, où j'habite. Il y a un master de bande dessinée qui s'est créé il y a 2 ans. Il y a 2 étudiants qui sont dans le site Comic Strip parce qu'ils voulaient voir comment ça fonctionnait. Ça va être des chercheurs, ils vont faire de la recherche, ces gens-là.
Ah bon?
Ben oui, bien sûr.
Oh,
et donc,
chouette,
du coup, ben, ils sont avec nous. Et une fois, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut regarder une interview? Je fais, mais non, tu viens, je te prête le bouquin, tu réfléchis des questions et on fait l'interview ensemble. Donc maintenant, ils écrivent, ils sont avec nous. Là, on a fait une interview de Molinox Ostertag avec une doctorante. Et tout ça, moi, c'est un milieu que je ne connaissais pas spécialement. Et maintenant, je fais des cours et je mets des gens en lien. Et j'adore ça, en fait. Finalement, parler des bouquins, ça m'intéresse, mais mettre des gens en lien qui ne se connaissent pas, c'est top. Et là, en plus, moi, on m'invite à des colloques, des trucs universitaires. Je ne comprends pas des fois la moitié des trucs. Hein. Mais je me dis, putain, intellectuellement pour moi, même journalistiquement, c'est important. J'ai une de vos collègues qui est venue, qui habite à Québec, qui parlait de Montréal dans la bande dessinée, dont j'ai perdu le nom, qui est génialissime. J'ai perdu le nom de cette dame.
Italienne. Elle est allée avec Sylvain Lemay en Inde.
Ah oui, oui. Oh là 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 là, je m'excuse.
Oui, moi non plus. Oh. Cette dame était géniale.
Une chercheuse italienne.
Exactement, italienne, qui est de l'université italienne.
Oui, qui a écrit un livre sur
Montréal.
Sur Montréal et sur l'aspect spatial dans la bande dessinée.
Oui, oui. Et ben, tu vois, ce genre de choses qui, moi, étaient au départ très loin de moi, et ben, rien que ça, je trouve ça génial. Et cette dame, et du coup, Comic Strip m'a aussi donné la possibilité, parce que j'ai tisser des liens, de faire des choses que je n'aurais jamais faites, de faire de la radio, faire de la télévision pour parler de la bande dessinée, frayer du côté des universitaires, les aider, parce que moi je connais plus localement l'économie et l'artistique, alors qu'ils ne connaissent pas. Ils ont besoin d'un auteur qui parle de couleurs, pas très loin de chez eux, je trouve, je connais. Voilà. Ça c'est hyper important, et ça c'est ce qui m'a apporté Comic Strip. Et ce que les gens apprécient aussi, c'est que je ne leur mets pas la pression. Si on est 22, les 22 peuvent écrire pas, il y a des moments comme c'est bénévole, ils peuvent, il y a des moments où ils ne peuvent pas écrire pour X raisons. Je leur dis pas, tu es obligé de faire ce truc-là à telle date. Le fait d'être ensemble quand on va à Saint-Malo, Angoulême, on loue une maison pour être ensemble. Ce côté convivial plaît aux gens. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, mettre en avant, j'en ai rien à foutre. Le collectif est plus important pour moi. Et parler des auteurs de la bande dessinée est plus important que moi, mettre en avant, je m'en fous. Il y a plein de gens qui font ça, qui mettent les influenceurs, qui font des vidéos. C'est pas très intéressant, au fond. Je m'en fous, moi, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas du tout.
Et c'est drôle, c'est dans ce sens-là. Et ce que j'aime... C'est ce que je trouve très très intéressant, encore une fois, au niveau de la blogosphère, c'est que on a parlé de Cyrus tantôt avant d'ouvrir les micros.
Bien sûr.
Alors qu'inversement, chez nous, la blogosphère, lorsqu'il y a des entrevues, c'est 95% du temps des artistes locaux, parce que chez nous, il y a un enjeu de faire découvrir notre dramaturgie BDS-que. Mais alors, c'est très chouette de parler de Cyrus avec toi et de se dire, ah ben waouh, il y a une ouverture dans cette pratique-là, il y a une considération, il y a une curiosité. Et je pense que ce travail-là, on ne peut pas le faire si on n'est pas animé d'une curiosité, hein, quelque part.
Chez les journalistes ou les chroniqueurs de bande dessinée, en général, sur les blogs, où ils sont spécialisés dans quelque chose. Il y en a un qui va être spécialisé dans le manga design, un autre qui va... Vraiment, c'est hyper
très,
spécialisé.
Très, très pointu.
C'est hyper spécialisé. Je ne dis pas que... voilà. Sauf que chez nous, moi, je ne me suis jamais interdit de rien en lecture. C'est-à-dire que je lis du manga, du comics, de tout. Même si j'ai des préférences pour la bande dessinée jeunesse et la bande dessinée indépendante. Quand il y a les deux, c'est formidable. Bande dessinée jeunesse indépendante, pour moi, c'est le bonheur. Mais je ne me suis jamais interdit ça, de m'arrêter à ça. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a permis de lire des trucs, que, par exemple Cyrus, parce que c'était à la pastèque. Et je pense que c'est important de ne pas enfermer les gens quand ils sont chroniqueurs. C'est-à-dire que moi, si un chroniqueur de comics il a envie de faire de la bande dessinée franco-belge, tu y vas, on n'est pas spécialisé, on s'en fout. C'est la même chose, c'est parce que tu es intéressé par l'histoire ou le graphisme, puis le reste, c'est raconter l'histoire qui est le plus important, c'est pas la façon dont mettre en place.
Moi, je pense effectivement qu'on enrichit sa pratique lorsqu'on s'ouvre.
Oui, c'est évident.
Je comprends le désir et je comprends le besoin de se spécialiser, mais je pense aussi que ça représente un... C'est relatif, là, mais ça représente un certain danger parce que ça nous enferme dans quelque chose. Et moi, j'en ai lu des gens là, que je sentais qu'ils étaient en perte de repère. Ils sont tellement pointus, spécialisés dans leur truc, que ça ne se rattache plus à rien.
Et moi, je n'ai pas envie de ça. En tout cas, moi, personnellement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est le... Voilà. Y a des bouquins, si j'étais rentré dans une librairie, jamais je les aurais lus. Parce que ça ne m'intéressait pas, mais finalement, je me dis, ça, j'ai lu et ça va me faire penser à ça, donc je vais le lire.
Oui, parce que ça, moi, j'appelle ça un lecteur professionnel. C'est quelqu'un qui lit. Non, mais c'est un métier.
Bien sûr.
Parce que si on ne lit que des choses qu'on aime, nous, personnellement, on ne peut pas faire notre travail.
Bien sûr.
On a fait le tour vite, alors que lorsqu'on développe ce muscle-là, c'est un muscle, lorsqu'on le travaille... Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça m'amène à lire des choses que jamais j'aurais osé lire.
Exactement.
Et ça enrichit ma pratique et ça garde vivant.
Maintenant, là, je rebondis sur ce que tu dis.
Ouais.
Il faut savoir que chez les journalistes de bande dessinée, spécialistes en bande dessinée qui ne font que ça, il n'y en a pas beaucoup en France, qui sont payés que pour ça. Et le modèle économique des blogs ou des sites, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les modèles économiques. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Nous, le site, on a essayé de faire un audit sur notre site à nous et sur les sites autour. Il y a quelques sites qui vont avoir un salarié. Mais c'est très peu et pourtant, c'est des sites qui sont visibles. Des journalistes spécialisés en bande dessinée, il doit y en avoir trois en France. Alors que le média dont on parle, le médium, la bande dessinée, est un art qui est très ancien en France et il n'y a rien. C'est-à-dire que les chroniqueurs, ben, il y en a beaucoup qui sont bénévoles ou qui vont écrire à, et qui vont être payés à la pige, c'est-à-dire l'article qu'ils vont écrire ou l'article à la radio. Et ça n'existe pas. Parce que moi, à un moment, je me suis demandé si le plus important, parce que c'est ce qui m'aurait intéressé, c'était de devenir rédacteur en chef, mais salarié. Donc c'était possible au départ de trouver des financements, mais à court terme, c'était voué à l'échec parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent.
Il n'y a pas de modèle d'affaires viable.
Non, ouais. Vraiment, là, je te parle économiquement. En plus, moi, je suis nul en économie, je te le dis tout de suite. Mais j'ai compris ça. Pour moi, c'est un mystère. Je me dis, comment c'est possible qu'un médium comme la bande dessinée qui est en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bande dessinée en France est le secteur du livre qui n'a connu ni la crise économique de 2008, ni le Covid. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le secteur du livre qui a tiré les autres du lecteur.
Chez nous, c'est pareil. Hein.
Et ouais. Tu te dis comment c'est possible qu'un art autant populaire, même s'il y a des choses très pointues, c'est pas ça le souci, et qui fait vendre autant. Là, on a parlé il y a moins de deux semaines d'enfin une émission à la télévision en France.
Oui,
en France. C'est complètement dingue.
Ouais.
Comment c'est possible que dans... Parce qu'il y a encore des gens qui arrivent à la télé en France, hein, des gens qui aiment la bande dessinée. Comment c'était possible qu'il n'y ait... Ça faisait pas loin de 5 ou 6 ans qu'il n'y avait plus à grande écoute sur une chaîne hertzienne. Enfin, c'est quoi ? Même chez les Belges, ils en font. Enfin, je me dis, comment c'est possible, mon dieu de bordel, qu'en France, on n'ait même pas ça ?
Alors, tu sais ce qui est vraiment étonnant chez nous ? En 1975-1976, sur une chaîne câblée à Montréal, il y a eu la toute première émission télévisuelle entièrement consacrée à la bande dessinée qui s'appelait Les Amis du Capitaine Québec, qui était animée par Pierre Fournier, l'auteur qui a créé le Capitaine Québec.
D'accord.
Et ils avaient beaucoup de parts de marché à l'époque.
Ouais.
Et ça n'a jamais été refait depuis. Il y a eu une série documentaire qui s'appelait BDQC, qui présentait par épisode un auteur québécois différent, qui a connu 15 épisodes en 2 saisons au total. Mais un magazine culturel consacré à la bande dessinée, où on parle de bande dessinée avec un vocabulaire, avec des intervenants, des acteurs du milieu, moi, quand j'ai vu la nouvelle en France, je me suis dit...
C'est fou.
Ben, c'est complètement fou.
Ben oui.
Et on peut même pas, nous, Marc, tu vas confirmer, on peut même pas rêver de ça au Québec, là.
Ah ouais?
Eh non, on est loin de la coupe aux lèvres.
Ça veut dire que chez vous, à part les quotidiens dont tu parles du devoir, il y a un truc au Canada, il n'y a pas un média aussi qui de temps en temps parle d'un journal, un quotidien? Le Canada, je confonds.
Écoute.
Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de bande dessinée, finalement?
Ben, dans la presse écrite, il y a Le Devoir.
Ouais, ça, où je connais.
Il y a La Presse, qui est maintenant juste sur la tablette.
Ça, c'est ça que je connais. Voilà. Oui, ça, je connais, OK.
Et il y a le Journal de Montréal, moi.
D'accord.
Après ça, on va en parler, on va faire des dossiers des fois dans des magazines, comme par exemple l'Actualité.
Le Journal de Gatineau, Le Droit.
Le Droit, okay. Oui, il y a Le Droit. Il y a Le Soleil aussi, à l'occasion, qui est dans la région de Québec.
Ouais.
Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis vraiment un extraterrestre parce que c'est mon métier. Moi, je travaille comme médiateur culturel en bande dessinée, donc comme chroniqueur, comme conférencier.
Je comprends.
Mais je suis seul. Et je trouve ça terrible.
Mais comment font les auteurs pour qu'on parle d'eux?
Oh oui, il y a la revue Les Libraires pour laquelle j'écris.
Non, mais ce que je veux dire, comment font les auteurs pour pouvoir valoriser leur création?
Ben, beaucoup par les médias sociaux.
D'accord.
Ceci dit, il y en a des blogs là, au Québec
qui
couvrent la bande dessinée.
Ouais.
Mais en dilettante, alors que Comic Strip, ton site, alors là, c'est vraiment, c'est en continu. Là.
Je pense qu'on doit avoir à peu près 7000 articles.
C'est ça. Chez nous, c'est des gens qui font ça de cœur en dilettante et qui investissent leur temps libre à faire ça. Ce qui n'enlève pas la qualité du travail fait, là.
D'accord. Et tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'université. Il y a un autre... Il y a 3 masters en France. Donc, il y en a un à Bordeaux, qui n'est pas très loin d'ici.
Oui.
C'est des créateurs et des chercheurs. À Poitiers, ce seront que des chercheurs. Et il y en a un autre à Amiens, dans le nord de la France. Et là, c'est des créateurs. Vraiment, leur cursus, c'est créé. Et donc, j'allais faire un cours sur comment valoriser sa création auprès d'un journaliste. C'est-à-dire comment tu parles à un journaliste. C'est génialissime.
Alors ça, ce serait bien, c'est ça, au Québec.
C'est tellement génial. Mais moi, je ne pensais pas, en fait, c'est quelqu'un que je connais parce que voilà, je l'ai rencontré et il me dit, mais toi, vraiment, il faut que tu expliques ce que c'est qu'un attaché de presse, ce que c'est qu'un journaliste. Parce que, et donc, les étudiants vont venir avec leur production. Ils ont réfléchi un peu avant. Donc, on fera un cours et après, on fera des espèces de petits ateliers pour savoir et tout, entre eux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les très grandes structures éditoriales, il y a des attachés de presse avec un département autour de la presse. Mais parfois, même les gros éditeurs font très mal leur travail d'accompagnement journalistique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour que l'auteur soit visible, c'est lui qui va le faire. Alors que ce n'est pas son travail, il n'est pas payé pour ça.
Non.
Alors qu'il y a des gens dans la structure qui sont payés pour ça. Donc, il va se transformer en... pas panneau publicitaire, mais il va être obligé de se vendre, sauf qu'il y en a qui ne savent pas faire. Alors, chez les jeunes, c'est plus simple, parce qu'ils ont les outils de réseaux sociaux.
Ouais.
Donc, mais c'est un temps qu'ils prennent, qu'ils ne font pas pour créer. Ça, c'est un vrai souci, parce que certaines maisons d'édition gagnent très bien leur vie, et je ne comprends pas. Et donc, du coup, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est incroyable comment tu es obligé, toi, de pallier à ce que ne font pas les autres. Je trouve ça fou. Enfin, pour moi, c'est
incompréhensible. Surtout pour les méga structures là, qui engendrent
des
millions de revenus.
Mais c'est, alors, parce que peut-être qu'ils ont trop de production et qu'ils sont obligés de cibler pour accompagner. Mais c'est nul. Parce que pourquoi tu laisserais un et pas l'autre?
Mais je pense aussi, et c'est le cas chez nous, en fait, dans les médias généralistes, là, quand un ou une journaliste qui couvre la scène, couvre le cinéma, quand vient le moment de parler de bande dessinée, c'est comme si on leur dérobait le tapis sous les pieds. Ils ne savent plus comment parler de ça. Et dans des... En tout cas, chez nous, les relationnistes de presse qui travaillent pour des structures éditoriales qui ne sont pas entièrement vouées à la bande dessinée, c'est souvent la même chose.
D'accord.
Alors, c'est le communiqué de presse, là, c'est la béquille.
OK.
Mais dès qu'on a des questions un peu plus pointues...
D'accord.
Ouais, donc, il y a un travail à faire ça, à faire là. Puis moi, je trouve que ça témoigne, malheureusement, à mon humble avis, je trouve que ça témoigne d'un manque d'égard à l'endroit du médium. Et surtout en France, la bande dessinée, ça engrange des revenus monstres.
Et puis, c'est... très important, c'est une... on disait un art populaire, mais c'est au départ une contre-culture, un peu comme le cinéma à ses débuts, c'est-à-dire c'est des choses qui étaient faites en dehors des structures officielles, on va dire. Et faut pas oublier que les auteurs ou les autrices, ils ont toujours, des fois, sans eux de contre-culture, d'essayer des choses qui n'existent pas ailleurs, dans d'autres arts, ou de croiser les arts, ou de croiser les... C'est hyper important, je pense, de ne pas oublier ça. Et des fois, après, c'est des pros, il y a des pros dans des pros de la com, et voilà. Et on est hyper dépendant, en fait. En tant que chroniqueur et journaliste, on est hyper dépendant de l'attaché de presse. C'est pas comme un journaliste de ciné. Le journaliste de ciné, il y va. Si on veut dire que c'est pourri, il a le droit de dire que c'est pourri parce que il se passe rien après. Alors que nous, on est hyper, c'est une relation qui est... c'est pas toxique, mais c'est...
Par contre, il y a une proximité.
Des trucs qui parfois ne vont pas.
Ouais.
Tu vois, on est trop liés. Voilà. Et je sais pas comment dire, je trouve pas le terme, mais ça peut être parfois chez certains... Pas spécialement moi, mais en général, ça peut être délicat par rapport à certains.
Damien, c'est très impressionnant la charge de travail que tu abats depuis toutes ces années-là. Je tiens à te féliciter parce que je sais à quel point c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de générosité, de sacrifice aussi. Et tu fais, et ton équipe le fait de manière excellente.
Ouais.
Bravo.
Ouais. Et en fait, bravo. Au départ, c'est comme tout le monde, au départ, on n'était pas nombreux, et maintenant, c'est les gens qui viennent nous demander, qui nous disent, est-ce qu'on peut écrire? Et du coup...
Mais ça, c'est la longévité.
Oui, exactement. Ouais, voilà. Mais tu sais que même maintenant, on a des partenariats, nous, en tant que médias, alors qu'on n'aurait jamais cru ça, il y a encore... On est partenaire d'un concours Jeunes Talents à Saint-Malo, qui est un concours extrêmement important, où il y a des auteurs qui ont gagné, qui ont ensuite pu publier. On est aussi partenaire d'un prix très important en Belgique qui s'appelle le prix Raymond Leblanc, qui a un prix extrêmement important, très bien doté. Et quand tu gagnes ce prix, alors c'est un prix qui est doté de 10 000 euros. Et donc c'est un des. Et ensuite, ton projet va être édité soit chez Futuropolis, soit chez Casterman, soit au Lombard. Et tu as 10 000 euros en plus. Donc c'est un prix qui est extrêmement important. Tu sais que tu vas être publié par une très grosse maison d'édition. Donc nous, on est partenaire de ça.
Wow.
Et on a dans les tuyaux aussi de faire un partenariat avec la Foire du Livre de Bruxelles. Et alors que ça, c'est pour nous, c'était. Alors ça prend du temps. Encore
ouais.
Une fois. Encore une fois, c'est moi, mais. Ça, jamais on aurait pu se dire qu'on était capable d'eux. Donc, c'est de la reconnaissance de la part des gens, mais c'est plutôt des festivals, hein, tu as remarqué, hein,
ouais.
On est bien d'accord,
ouais.
Qui comprennent bien que c'est pas qu'ils ont un intérêt, si, parce que ça, c'est dans les deux sens, ils ont un intérêt que ce soit nous. Et pas quelqu'un d'autre, hein, attention, c'est bien dans ce sens-là. Ça soit nous, parce que là, c'est la jeune création pour les deux prix. C'est la jeune création. On aime beaucoup, nous, tu vois. Un truc un peu indé, un peu. On suit, en plus on a la possibilité sur le site, c'est quelque chose qui est assez. Personne ne le fait ça. On a la possibilité de suivre des projets sur le long terme. Le gagnant du prix Raymond Leblanc, non pas cette année, mais l'année dernière, qui est un jeune auteur de 23 ans, quand il a gagné le prix, on a fait sa première interview de toute sa vie. On a fait une première interview, il nous a présenté son projet. Alors nous, on l'avait vu avant, parce qu'on avait vu les projets avant, voilà. Ensuite, on a fait une deuxième interview avec lui et son éditrice, qui nous a expliqué quels étaient les liens, comment ils fonctionnaient tous les deux. Et elle, ça fait des années qu'elle était éditrice, elle me dit, c'est la première fois que je fais une interview. C'est pour parler de mon métier à moi. Et après, on va faire aussi encore une interview, et son bouquin sort en mars. Donc on a réussi à les suivre. Ça, personne ne peut le faire. Il n'y a qu'un blog ou un site qui peut faire ce genre de choses. Un média ne peut pas le faire.
Mais non.
Et il y a encore un autre projet qui est assez dingue. L'album est sorti la semaine dernière. Donc là, on a suivi l'album depuis la signature. Avec l'accord de la maison d'édition et l'accord de l'éditrice. Et la scénariste qu'on connaît depuis très longtemps. Et la dessinatrice. Donc, ils nous ont expliqué... comment ils avaient monté le projet, à qui ils avaient proposé le projet, le scénario, comment il était, avec l'éditrice. On a fait plusieurs interviews et le bouquin est sorti la semaine dernière. Donc il n'y a que nous qui pouvons faire ça, il n'y a qu'un blog ou un site qui peut parler sur le long terme. Et quand je te disais que c'était important pour les gens de connaître les coulisses, plus que finalement parfois l'album en lui-même, c'est comme quand on regarde un making-of de film.
Tout à fait.
Les gens adorent ça. Est-ce que tu travailles tout seul? Pourquoi? Quel est ton cheminement intellectuel pour arriver? Ben ça, il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et les éditeurs et les auteurs, maintenant, ils viennent nous demander. Sauf que c'est un travail très important pour des bénévoles, on ne peut pas le faire tout le temps. Mais ouais, parce que ça, journalistiquement, ou même pour leur presse, ils n'ont pas ce genre de choses. Et tu sais que c'est... Et, alors, je vais terminer sur ça, parce que je vois... J'écrivais au début et j'arrive sur un stand d'éditeur, un petit éditeur, tu vois, et je discute avec l'auteur avec qui j'avais fait la chronique et je lève la tête et derrière lui il y avait une bâche, tu sais les bâches où il y a la couverture et il y a une citation, et cette citation c'est la mienne. Et la première fois je lui dis, ah ben merde. Et en plus j'étais au-dessus du Monde, le journal Le Monde, moi c'était... Je me dis, merde alors, et j'étais... Et puis après, il m'est arrivé aussi sur un kakémono. Donc j'avais la tête de l'auteur et une seule citation, c'était la mienne. Je me suis dit, merde. Et franchement, au début, ça fait dire. Parce que moi, je sais. Donc dans les communiqués de presse, des éditeurs, des fois, je suis là-dedans. Et il m'est même arrivé deux trucs vraiment dingues. Je reçois le tome 2 d'une série et je prends le colis, mais l'album, je l'avais mis de dos. Enfin. Et deux, trois jours après, je prends le bouquin et je le retourne. Et là, il y avait un bandeau rouge, tu sais, les fameux bandeaux rouges qu'on va citer. Et c'était ma citation à moi. La première fois de ma vie que je voyais ça, je me disais, c'est complètement fou. Et donc, je vais à Saint-Malo et il y avait la maison d'édition. Ils avaient un stand et donc, ils avaient mis en plus tous les bouquins dans le même sens. Donc, j'ai dit à l'auteur, viens, on va faire une photo. Et il y a un truc encore plus dingue, c'est que j'ai vraiment traversé l'Atlantique. Et ça, c'est un truc de fou. J'ai un auteur que j'aime beaucoup depuis très longtemps, qui fait une bande dessinée qui s'appelle Super aux éditions La Gouttière.
Ah oui, c'est voilà. Excellent. C'est, voilà.
Et donc un jour, ici à Angoulême, tous les deux, ils m'attrapent au vol, comme ça, ils me disent, Damien, on a une édition américaine du bouquin, on en a eu 4, on t'en donne un. Bah, je dis, vous n'êtes pas obligé si vous en avez eu 4, mais ils me disent, c'est important. Ils me disent, ouvre à leur jour, et il y avait une dédicace du dessinateur normal et une dédicace du scénariste qui ne dessine jamais. Je lui dis, c'est gentil, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé, c'était une édition américaine. Bon. Et ils me disent, mais c'est pas fini. Ben, il me dit, ouvre. Et donc, dans le rabat, il y avait une citation à moi qui avait été traduite. Donc, j'avais passé l'Atlantique. Est-ce que tu penses qu'un jour, j'aurais pu écrire ? Pour moi, c'était fou. Je me disais, mais... Je dis, comment c'est possible ? C'est fréquent, j'ai des citations à moi qui se retrouvent un peu partout. Si on m'avait dit ça un jour, je pense que jamais j'aurais pu croire ça. Parce que moi, je suis prof. Au départ, j'étais prof pendant 9 ans avec des enfants, des petits. J'ai arrêté en 2010. Et finalement, ce que j'ai pu tisser comme lien, il y a des choses jamais j'aurais pu penser une fois faire ça. Jamais faire de la radio, de la télé, des trucs. Jamais j'aurais pensé ça. Et c'est la bande dessinée qui m'a apporté ça. C'est dingue.
Alors, c'est tout à fait légitime que tu lui sois très généreux en retour.
Oui.
Damien Canto, merci beaucoup.
Merci.
T'es le bienvenu en Amérique.
Je viendrai.
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca/tribune/catégorie/angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.